Salut les marques et les smarts et bienvenue dans votre supplément SmackDown de Catch-Up, l'émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis Yarem et je suis, comme toujours, accompagné du resplendissant Giscal. Salut Giscal.
Salut Yarem, salut tout le monde.
Alors cette semaine, gros programme chargé puisque voilà nous. Copains de la team pay-per-view, je sais pas si on peut les appeler comme ça,
à savoir type pay-per-view, mais ouais.
Hank et l'amiral Armbar ont lamentablement échoué dans l'enregistrement de leur épisode consacré donc au dernier pay-per-view de la brand bleue. Donc au menu, le résultat et le débrief de nos merci, puis l'analyse évidemment du SmackDown qui avait lieu le 11 octobre à San José. En Californie. Eh oui, donc ce soir, on célébrera, si je puis dire, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais le deuil de la ceinture blanche. L'homme sans menton affrontera l'homme du Japon. Bryan et Shane McMahon lancent un défi à Raw. Kurt Hawkins n'apparaît pas. Et enfin, Luke Harper parle. Donc, ce SmackDown donc, qui avait lieu donc, juste après No Mercy. Donc, première chose en premier, No Mercy, mon bon Giscal, donc, qui avait lieu dimanche soir. Un pay-per-view un peu bizarre, complètement monté à l'envers. Alors, je vous invite, si vous voulez vraiment une analyse telle que les Cahiers du Catch ont l'habitude de vous proposer, bah, c'est tout simplement d'aller sur le site des Cahiers du Catch, hein, lescahiersducatch.com, pour y lire l'analyse et résumé par votre humble serviteur Giscal, le resplendissant Giscal.
Le resplendissant, merci.
Voilà, qui, comme d'habitude, a réussi à nous narrer ce qui s'est passé lors de ce pay-per-view un peu étrange, plein de hauts et de bas, puisque... tout simplement, la première grosse surprise de ce pay-per-view, c'était qu'il a commencé par le main event. Donc, c'était assez surprenant de commencer par le main event, qui était donc le... Alors, attendez, je me trompe pas.
Le Triple Threat,
voilà, opposant AJ Styles à John Cena et Dean Ambrose. Donc, qui a vu la victoire du champion en titre, AJ Styles, dans un match de plus de 20 minutes. AJ Styles qui a remporté la mise en frappant John Cena d'un coup de chaise, parce que c'était légal, alors que tout commençait à partir dans tous les sens, évidemment, dans ce Triple Threat. J'ai zappé, effectivement, il y avait un kick-off match qui n'était pas, contrairement à ce qui avait été annoncé, le Baron face à Jack Swagger, mais
non,
c'était les Highbrows et les American Alpha qui affrontaient les The Ascension et The Vaudevillain. Les gentils ont disposé des méchants en moins de 10 minutes. Ensuite, il y a eu Nikki Bella qui a vaincu Carmella dans un match de 8 minutes. Les champions, Heath Slater et Rhino, les champions par équipe, ont conservé, à la surprise générale, dans un match de 10 minutes face aux Usos. Le Baron a vaincu le nouveau, pas si nouveau, Jack Swagger, dans un match de moins de 8 minutes. Enfin, Dolph Ziggler, qui mettait sa carrière en jeu face au champion intercontinental Le Miz, est parvenu à battre le champion dans un match de 20 minutes de haute volée.
Absolument
plein
épique.
Plein d'interférences. Et donc est devenu à la fois le nouveau champion intercontinental et est toujours employé à la WWE. Ensuite, Naomi a vaincu Alexa Bliss dans un match de remplacement, puisque Becky Lynch, pour des raisons médicales, n'a pas pu défendre son titre ce soir. Donc... on a booké un match de dernière minute et qui a vu la victoire de Naomi sur Alexa Bliss. Victoire surprenante et on aura sûrement beaucoup de choses à dire à ce sujet. En tout cas, Giscal, je sais que tu en as beaucoup dit à ce sujet dans ta analyse. Et enfin, pour terminer, Bray Wyatt a vaincu Randy Orton dans un match de 15 minutes qui a vu le retour de Luke Harper. Le retour de l'homme barbu au Marcel Crado et donc de retour dans la famille Wyatt. Et c'est ainsi que s'était achevé ce pay-per-view No Mercy. Donc, c'était un peu chaotique, là, mon listing, et la raison est que, tout simplement, effectivement, la programmation de ce pay-per-view était assez chaotique, n'est-ce pas, Giscal?
Ah ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que c'est moi, de mémoire, en tout cas, de suiveur, mais les auditeurs me contrediront peut-être, mais c'était la première fois que je voyais, comme ça, un pay-per-view s'ouvrir sur le main event. Alors, on a peut-être des cas particuliers à l'époque, dans des pay-per-view un peu à gimmick type Elimination Chamber, où c'est vrai que c'était, je crois que de mémoire, c'était peut-être pas rare de voir l'Elimination Chamber ouvrir le bal ou des choses comme ça, mais c'était quand même, c'est exceptionnel.
Oui, ou le Royal Rumble, par exemple.
Ou le Royal Rumble, ouais, tout à fait, où on pouvait avoir des matchs pour le titre qui commençaient, parce qu'on avait le Rumble en main event. Mais bon, voilà, là, du coup, ça nous a pris un peu de cours. Ceux qui sont abonnés au network auront eu, du coup, peut-être la joie, la surprise, comme moi, de découvrir dans leur boîte mail à quelques heures du pay-per-view un mail de la WWE annonçant que le Triple Threat ouvrirait le bal ce dimanche dernier. Donc, c'est vrai qu'on est un peu sur le cul. Voilà, bon, après, il y a des explications. On savait que c'était une nuit très chargée aux États-Unis avec le débat présidentiel, un gros match de NFL aussi. Enfin, c'est compliqué. La WWE a voulu remuer un peu les choses et tenter quelque chose. Pourquoi pas ? Ça a pas plu à tout le monde. C'était un peu particulier. Bon, toujours est-il que voilà, ils ont tenté quelque chose et en tout cas, ça m'a plutôt pas dérangé.
En tout cas, les deux tiers quoi du pay-per-view.
C'est ça, voilà, en fait, les deux tiers. Je pense qu'il faut... Bon, je ne vais pas m'étaler trop sur mon avis, vous pourrez le retrouver sur le site, comme a dit gentiment IRM, hein, mais voilà, il y a vraiment eu une version courte, hein, je pense, qui va de l'ouverture jusqu'au match absolument dantesque pour le titre intercontinental. Et la dernière heure est à jeter un peu à la poubelle, quoi. Elle a été sacrifiée parce que c'était le début des autres programmes en parallèle. Donc c'est vrai que c'était pas forcément très intéressant.
D'ailleurs, moi, par exemple, le pay-per-view, je l'ai regardé en deux fois et je me suis arrêté après le match intercontinental.
Ah bah, du coup, t'as dû avoir un super show.
J'ai eu un super show, mais surtout, j'étais là pendant 24 heures à me demander, mais parce qu'il restait encore au moins une heure à ce moment-là.
Ouais.
Et je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, il reste Bray Wyatt, le match d'Alexa Bliss, et c'est tout. Et en plus, il venait d'annoncer Bray Wyatt, alors que finalement, c'est ce qui allait conclure le show. Donc je me suis dit, attends, mais ils vont mettre le Bray Wyatt, ils vont mettre Alexa Bliss contre Naomi en dernier. Et en fait, là où je me suis fait avoir, c'est que sur le network, ils ont inclus le Fallout, le Talking Smack.
Exactement,
dans les 3 heures. Du coup, après, j'ai regardé le lendemain une demi-heure de merde quasiment, et après, je me suis tapé le Talking Smack, et du coup, c'était un peu bizarre, toi. Donc,
c'est ça.
Bon, alors, est-ce que tu pourrais retenir, qu'est-ce qu'on retient
de
tout ça en top et en flop,
moi,
et notes pour sanctionner
on va faire notre petit mot classique. Moi, mon top, c'est bon. Il y a eu des énormes tops et des énormes flops dans ce pay-per-view. On en a déjà parlé, mais mon top, ça va être le match d'ouverture. En fait, la surprise du match d'ouverture.
Ouais.
Et puis même si je devais choisir un top encore plus précis, j'ai beaucoup 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 aimé le rebondissement de quasi fin de match où on voit AJ Styles en fait se faire piéger dans une double soumission. Puisque vous avez Ambrose qui place son calf crusher sur AJ Styles et Cena qui arrive et qui met son STF par-dessus, donc le champion est pris dans une double prise et n'a d'autre choix que de taper. Et là, l'arbitre a la présence d'esprit de ne pas déclarer de vainqueur, parce qu'il y avait un double vainqueur et ça ne peut pas arriver. Donc du coup, il laisse le match se continuer. Voilà, j'ai trouvé ce spot juste génial et qui a rajouté beaucoup d'intensité. Mon flop, ça va être la défaite d'Alexa Bliss, que je trouve scandaleuse.
Une honte.
C'est exactement comme Bray Wyatt contre Kane à Backlash. Je comprends pas parce que au final, je vois ce qu'ils veulent faire derrière. Voilà, ils veulent installer une petite feuille de transition, mais on peut arriver exactement au même résultat et de manière beaucoup plus intéressante avec une victoire d'Alexa Bliss. Donc, je trouve que c'est dommage. Enfin, c'est pas dommage, c'est stupide pour la pauvre en plus qui se retrouver dans un match bancal alors qu'elle avait un title shot.
Ouais, bon, c'est la WWE à l'heure actuelle où le lundi tu gagnes, le mardi tu perds. Quoi.
C'est ça, c'est vraiment dommage. Et puis ma note, écoute, malgré une dernière heure un peu en foutoir, je trouve que j'ai passé d'excellents moments devant ce pay-per-view, donc j'avais décidé de mettre 3,75 pour ce pay-per-view que j'avais trouvé quand même de très bonnes factures, en dessous de Backlash, mais quand même un pay-per-view avec des sacrés moments.
Effectivement, en gros, tu retires la dernière heure, tu mets un
Ah
gros
ouais.
4, 4,5, quoi.
Ah ouais, facile, ouais.
Et voilà. Donc, moi, en y réfléchissant un petit peu, je mettrais ouais, quelque chose autour de 3, 3, allez, 3, 3,50, quoi, effectivement. Pour toutes les raisons qu'on a vues ensemble. Mon top, du coup. Mon top, c'est. Alors, mon top, c'est la. Du coup, aucun de nous deux n'aura mis le IC title pour
Ah
Dolph
ouais, mais bon,
Ziggler, mais
il faut aller le voir quand
il faut le
même.
voir de toute façon. Mais mon top, je le mettrai dans la surprenante victoire de Heath Slater et Rhino. Parce que. Et surtout, la prestation qu'ils ont eue. Enfin, ils ont fait un vrai match où ils sont vraiment défendus. Je m'attendais à ce qu'ils se fassent
C'était une
juste.
belle défense de titre.
Voilà, laminer, en fait, non. Donc, j'aime me faire surprendre. Pour moi, c'est 99,99% de chance qu'ils allaient perdre. Et je pense que dans les pronos, le jeu des pronos sur les cahiers du catch,
Je pense qu'il y a pas mal de
ça va
pronos
faire
pour eux,
mal.
ça.
Donc, ouais, je mettrai ça dans mon top. Et mon flop, bah, du coup, ouais, c'est la programmation, quoi, en général. Je vais pas aller dans le détail sur cette
Bon,
programmation.
ça t'a pas, ouais. Ça t'a décroché total, quoi.
Ouais, ça m'a complètement décroché. En fait, j'ai
C'est
passé
vrai.
le. En fait, comme je voyais le temps, toi, dérouler, j'ai passé tout le temps du show quasiment à me demander ce qu'allait faire le main
What
event.
the fuck, quoi. Ouais.
Non, mais je me suis dit, qu'est-ce qui va être le main event? Et c'était de déception en déception, parce que c'était. Je pensais que ça allait être le titre
Oui,
intercontinental,
tu.
et en fait, non. Donc pour moi, c'est ça mon flop, c'est ne pas avoir mis le titre intercontinental
C'est
en
vrai.
main
Non,
event,
c'est
parce
vrai.
que ça avait toutes
Je peux
les.
comprendre.
C'était du main event matériel, quoi.
Ah bah oui, clairement, ils avaient tout.
Voilà, mais ils ont cédé aux alarmes de l'audience, voilà, ce qu'on peut comprendre à moitié. Anyway, ça c'était pour nous, merci. On revient sur SmackDown?
Let's go.
Allez, c'est parti. Donc SmackDown qui avait lieu, donc je le rappelle, le 11 octobre à San José, Californie. Donc, bah, on commence simplement par une promo du nouveau champion, Dolph Ziggler.
Ah oui,
Champion, magnifique
le héros.
champion intercontinental, le héros, cinquième titre intercontinental, il me semble,
C'est ça exactement.
pour le natif d'Ohio. Donc il arrive sous une pop monstrueuse, évidemment, avec des chants You deserve it, et lui crie à la foule We did it, ça y est, on l'a fait. Alors il explique, il raconte qu'effectivement il a laissé ses émotions prendre le dessus hein, tout au long des semaines, des mois de rivalité entre lui et le Miz, et que c'est ça qui lui a fait mettre tout en jeu. Hein. Grosso modo, il a laissé ses émotions parler pour lui. Il a manqué, si on peut dire, de clairvoyance, mais bon, ça a payé. Il savait pas s'il serait là mardi, hein, malgré toutes les rumeurs relatives à son contrat sur Twitter. Alors, ça, j'ai pas du tout suivi, mais visiblement, il y avait des pseudo-leaks sur des histoires de contrat. Bon, comme souvent, quand il y a des matchs, des carrières
Oui,
en
toujours.
jeu. Donc, il savait pas trop s'il allait remonter sur le ring. Alors, ça, c'était assez drôle. Il a dit s'il continuerait d'asperger de spray le dos huileux de Zack Ryder, hein,
Ah.
quand ils font leur spray
Oui, c'est
tan,
ça.
là, le spray bronzant. On lui a dit qu'il était fou, mais il l'a fait. À ce moment-là, évidemment, bah, Maryse et Maryse débarquent, alors tous deux noirs
Mise et Maryse.
vêtus. Ouais, Miz et Maryse débarquent tous deux noirs vêtus. Voilà, ils sont aucune émotion sur leur visage. Ils ont l'air assez abattus. Et évidemment, pourquoi? Parce qu'ils sont venus ce soir se recueillir pour la mort du titre intercontinental. Car oui, pour le Miz. Le titre intercontinental est mort ce dimanche soir quand on a vu bah, Ziggler l'emporter. Miz explique que lui, il avait redonné tout le prestige hein, dû à cette ceinture. Ça, on ne pourra pas forcément lui dire le contraire.
Ah oui.
Mais que Ziggler, de par sa médiocrité, bah, a tout gâché. Hein. Mais l'histoire n'est pas terminée. Non, 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 l'histoire n'est pas terminée. C'est seulement le début de l'acte 2, hein, du deuxième chapitre, nous annonce le Miz. Qui se voit alors voilà, un acteur de pièces de théâtre, tel le héros qui doit se relever à ce moment-là pour surmonter toutes les épreuves insurmontables, justement. Et ce héros, bah, c'est le Miz, hein, c'est pas Dolph Ziggler, évidemment, c'est le Miz. C'est le héros qui est celui qui alors est la fille. Alors le Miz explique que bah, lui, il a déjà la fille, hein, évidemment, avec Maryse. Alors bah, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Bah, c'est reprendre l'or que Ziggler lui a pris. À ce moment-là, Ziggler l'interrompt et lui, à son tour, lance une vidéo, ce que le Miz a fait pendant les dernières semaines. On se souvient de ce package vidéo très très bien monté. Donc c'est une vidéo bah, de la fin du match qui les a opposés et on voit donc le Miz qui finit le match en pleurs. Bah voilà, il vient de perdre le titre Et il y a la mine déconfite, hein, il est en larmes, ou presque en larmes. Donc retour sur le ring, Ziggler se moque, et les fans aussi, hein, impitoyables, hein, ces fans, hein, qui reprennent en cœur You were crying, tu pleurais, tu pleurais. On ne sait pas trop qui sont les méchants, qui sont les gentils, hein, ce soir.
Ah
Puisque
bah,
Miz,
il
en
a
plus,
bien.
explique qu'il a tout sacrifié quand même pour ce titre, et qu'il prend
Il a
ça
bien le
très au
droit de se
sérieux.
moquer.
Oui, on a bien le droit de se moquer.
Après tout ce qu'il a vécu.
Oui, qui prend ça très au sérieux, le Miz. Donc, encore beaucoup d'intensité hein, dans cette promo. Et qu'il est prêt à tout. Hein. Il était prêt à tout pour conserver la ceinture. Il n'a pas réussi, mais alors imaginez. Imaginez ce qu'il est prêt à faire pour la reprendre. Est-ce que tu imagines,
C'est ça.
Giscal, à ce
Ah,
moment-là.
je tremble à ce moment-là.
En
Quand je
plus,
vois les moyens qu'il a mis en œuvre pour la conserver.
d'autres qui arrivent en tremblant, c'est les membres de la Spirit Squad, hein, qui arrivent, les cheerleaders, hein, les
Les
anciens
cheerleaders.
partenaires de Dolph Ziggler. Mikey et Kenny.
C'est ça.
Et on annonce à ce moment-là un handicap match, donc un 2v1 entre les cheerleaders et Dolph Ziggler. Donc, bon, le match hein, sera assez rapide, 6 minutes à peu près. Les Spirit Squad donc, sont très agressifs hein, et le Miz tente plusieurs fois d'intervenir, mais Ziggler ne se laisse pas distraire, il est assez concentré quand même. Tentative de roll-up, il fait une tentative de roll-up sur Mickey, mais retour de Kenny via un tag. Alors les cheerleaders, bon, voilà, ils tentent l'avantage avec le surnombre, hein, c'est le seul, on va dire, la seule arme qu'ils ont, mais sans réel succès, puisque Ziggler place un magnifique double DDT
Oui.
sur les deux, là, les deux qui vraiment tels des piquets qui retombent, c'était assez impressionnant. Et voilà, ça se finit par un super kick pour tuer Kenny, puisque
Oui.
ça va devenir le running gag.
Parce que Mauro Ranallo, t'as piqué
Voilà,
ta vanne de la semaine
Moro, le
dernière.
piqueur de vannes. C'est pas bien, Moro, il faut citer ses sources. Voilà, oh mon Dieu, ils ont tué Kenny. Donc, victoire du champion. Rapidement interrompu par le Miz qui place son
Évidemment.
skull crushing finally. Et là, étrange et surprenant, Slater et Rhino qui viennent à la rescousse. Hein, Slater qui s'est découvert un rôle de chevalier roux, comme on l'avait dit la semaine dernière.
Ça, exactement.
Des roues de secours. Je sais pas s'ils vont. Si Moro, attention, t'écoute, fais gaffe. Hein, si tu
Oui, attention, attention.
fais pas le con,
Ça va être plus compliqué en anglais, mais.
cite tes sources, bordel. Et donc ça se termine là-dessus, donc sur Setter et Rhino qui viennent à la rescousse de Dolph Ziggler et Miz et ses affreux Jojo qui repartent backstage. Donc voilà, donc un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la rivalité
C'est ça.
Ziggler et Miz. Qu'en as-tu pensé, mon bon Giscal?
Écoute, moi je suis ravi que ça continue.
Il est quota.
Je suis content, voilà. Je suis ravi parce que voilà, j'ai passé un super moment devant ce segment, devant ce match. J'ai trouvé que l'ensemble était très solide. On capitalise à fond sur le feel good moment de la veille, voilà, pour donner un bon moment à Ziggler, pour se moquer du Miz, c'est normal, hein. C'est après tout ce qu'il a fait subir Adolphe pendant des semaines, le blond a bien le droit quand même de lui rendre un peu l'appareil avec son petit package vidéo, c'était assez rigolo. Le coup du J'ai beaucoup beaucoup aimé l'arrivée du Miz et de Maryse tout en noir, voilà, qui font le deuil du titre et qui disent voilà, que Ziggler a tué le titre parce que c'est aussi une façon de la carrière de Ziggler avait été très très mise en avant quand même dans cette rivalité. C'est aussi un bon moyen de remettre au centre du débat la ceinture
Ouais.
qui quand même prend voilà du coup prend une place importante dans l'histoire et vraiment vraiment bien bien mise en valeur. Donc ça c'est top, bon, leurs échanges sont extra, moi je continue à beaucoup aimer. Kenny et Mickey me font plutôt bonne impression, donc je trouve que
Ils ont
ça me
la
déplaît.
forme, hein.
Ouais, ils ont plutôt la forme, donc ça me déplaît pas qu'ils restent un petit peu, on va dire, et qu'ils fassent pas juste un one shot. C'est aussi un bon moyen de conserver des interactions dans le ring sans se faire affronter les deux protagonistes. Donc c'est plutôt habile. Le match handicap était plutôt plaisant, j'ai bien aimé. S'il y avait un point noir, je trouvais que c'était le seul truc qui m'a fait un peu tiquer, qui était un peu bancal, c'est que je trouvais que c'était quand même très étrange que le Miz puisse booker des handicap matchs quand on connaît son rapport à l'autorité dans le show.
Ouais, alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui pourra revenir. Je sais pas si on y reviendra ce soir, mais il y a.
Mais le
Voilà.
rôle de Daniel Bryan, tu te dis, tu sais pas trop quand
Je
il
pense qu'il peut avoir
intervient,
des
quand il a.
absences ou alors ils sont deux dans la tête
Ouais.
à Daniel.
Alors que par d'autres moments, il intervient, on sait pas trop pourquoi, mais bon.
Oui,
Bon.
oui. Bon.
On en reparlera. Yes. Mais voilà, bon, c'était le seul petit point d'or. Mais sinon, bah écoute, ça continue, c'est super. Donc,
ouais, là, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment, on remet la ceinture au centre de l'attention. Et effectivement, bon, cette page sur la carrière de Ziggler est tournée. Donc, la ceinture, franchement, la ceinture intercontinentale a un traitement. Il y a un ou deux ans,
génial,
on n'aurait jamais imaginé.
C'est du co-main event, quoi. Donc,
c'est magnifique. Donc, on enchaîne justement. On parlait de Daniel Bryan. Alors, tu disais, ouais, Daniel Bryan, on ne sait pas trop, il book pas. Voilà. Pour une chèvre, le booker, c'est important.
Bon, putain. Wow.
Yeah. Woo. Attention, Moro.
Bon.
Attention, Moro Ranello.
On t'écoute, Moro.
Fais pas le con. Donc, on est backstage, et là on a Shane McMahon et Daniel Bryan qui discutent tranquille, hein, voilà. Et qui nous annoncent, ils s'adressent à nous en fait, ils annoncent comme quoi ils ont une idée pour Survivor Series, hein, qui aura lieu le 20 novembre, un gros pay-per-view, le premier pay-per-view qui voit Raw et SmackDown, hein, je crois, depuis
le split. Ouais,
depuis
ouais,
le split,
c'est
hein.
Ça, exactement.
Donc, il y en aura quelques-uns encore comme ça, j'imagine, sûrement au moins
oui.
Les Big Four.
Donc, prochain, ce sera le Rumble.
Ouais, ah, d'accord, ok, bah ça, je pense que ça va être ça. En tout cas, 20 novembre à Toronto, Survivor Series, et Daniel et Shane ont décidé qu'ils allaient en faire un événement spécial. Genre, les mecs, c'était pas spécial les Survivor Series, nous on va en faire un événement spécial.
Alors, ça l'était plus trop, c'est vrai.
Ça l'était plus trop, c'est vrai. Je crois même qu'on avait des Survivor. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des Survivor Series sans match à stipulation de
Non, mais ça faisait bien 2 ans, ou en tout cas l'année dernière, où ça devenait scandaleux parce que franchement, il y avait aucun 5 contre 5 de bouquet à limite avant une semaine avant le pay-per-view, et ils foutaient des jobbers à la con.
Ouais, puis les enjeux n'étaient pas forcément bien déterminés.
Ouais. Donc franchement, c'est compliqué, quoi.
Donc retour aux sources pour le pay-per-view, puisqu'ils annoncent qu'il y aura non seulement un 5v5 de type Survivor Match masculin, mais également un 5v5 de type Survivor Match féminin et un 5v5 de type Survivor Match de tag team, mais qui ne
ouais,
sera...
Qui sera un et qui 10v10 du coup. Ouais.
10v10.
C'est 5 équipes contre 5 équipes, quoi.
Oui, oui, bien sûr. Oui. Oh, tu veux dire, comment ça, les tag teams, ils sont composés de 2 partenaires, mais qu'est-ce qui se passe?
Parce que tu dis 5v5, c'est pour ça.
Oui, bah 5 équipes contre 5 équipes, qu'est-ce que tu
veux? Ok, c'est bon.
Et du coup, s'ils prennent les New Day, comment on fait? Ils sont 3.
Ah bah, je sais pas, 11v10. Ça, c'est à Raw de gérer, je ne sais pas.
Bah, justement, tu parles de Raw. En fait, bah, c'est un défi hein, que lancent Shane McMahon et Daniel Bryan, puisqu'ils vont sélectionner donc, les 5 meilleurs, ce qu'ils estiment les 5 meilleurs hommes, femmes et équipes de leur roster pour affronter les 5 meilleurs hommes, femmes et équipes du roster de Raw. Donc on va revenir vraiment à Survivor Series opposant le Raw à SmackDown. C'était un peu déjà un peu le genre de stipu qu'on avait pour le pay-per-view Bragging Rights, c'est ça hein. Ouais, bon, j'ai pas trop connu cette époque-là. J'espère qu'il y aura pas de questions sur Bragging Rights au CDC quiz hein. Bref, du coup, bah, ce qu'on a imaginé, enfin ce que Giscal, l'esprit tordu de Giscal a imaginé,
l'esprit tordu.
C'est que bah, nous, à Catch Up, on allait faire pareil. Hein. Comme vous savez, on a 2 émissions par semaine, un Catch Up dédié à Raw et un Catch Up dédié à SmackDown que vous êtes en train d'écouter avec attention. Donc avec l'ami Giscal, vu qu'on est en charge, on va dire, de Catch Up SmackDown, hein, du supplément SmackDown, je pense qu'on peut le dire.
Oui.
Voilà, c'est dévoilé. On lance un défi à la team Catch Up Pro d'établir leur roster qui participera selon eux. Alors c'est vraiment du pronostic, c'est de la prévision. Hein,
c'est ça, exactement.
Voilà. L'idée, c'est d'essayer de deviner ce que vont choisir les GM, les figures d'autorité, pour représenter leur division à Survivor Series. Donc, je vous tease un peu. Avec Giscal, on vous annoncera notre liste qu'on a établie à la fin de cet épisode.
Eh oui.
Eh bah ouais, attendez.
Parce que sinon, ça va faire comme nos merci. Vous allez couper le podcast maintenant et vous allez vous barrer. Donc non.
On vous connaît, on a les statistiques, bande de vilains. Donc, en revenant au business in-ring, si je puis dire, puisqu'on va avoir un match féminin. Alors, une petite séquence backstage avant où Carmella a agressé Nikki après. Donc, sa défaite, hein, no merci, Carmella a perdu. Donc, ce soir, on a un match opposant Carmella à Naomi. Donc voilà, très rapidement, le match a duré moins de 3 minutes, donc la version rapide, c'est Carmella qui attaque avant la cloche, hein, elle veut en découdre. Naomi, elle reprend le dessus, elle balance hein, ses speedball kicks là où elle plein de coups de pied comme ça. Bulldog dans le coin, hop, high cross pour le compte de 2. Carmella contre la tentative de corner boots de Naomi. Mais à ce moment-là, Nikki, débarque. Elle déconcentre Carmella, qui se fait roll-up. Boum. Victoire de Naomi. Défaite de Carmella, évidemment. 2 minutes 55. Voilà. Pas grand-chose à dire sur ce match, je pense. Par contre,
non.
Backstage, Daniel Bryan, alors l'homme qui ne book pas les matchs du titre intercontinental, mais qui book tous les autres matchs, il book un affrontement entre Naomi et Alexa Bliss, après que celle-ci ait déclaré qu'elle pouvait la prendre n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, Giscard, effectivement, petite rivalité transitoire et temporaire entre Alexa Bliss et Naomi. Donc, qui s'affronteront du coup la semaine prochaine, c'est ça ?
Elles s'affronteront le 8 novembre à Glasgow.
Non, là tu me parles du match du championnat. Là.
Ah non, ça c'est le match pour le titre. Ah oui, pardon. Du coup, oui, tout à fait. C'est
là,
ça,
je
c'est
parle du match
prochain.
Entre Naomi et Alexa Bliss.
Oui, mardi prochain, Alexa Bliss contre Naomi. Ça n'a pas été précis. Je ne crois pas qu'on remette le titre de number one contender, je pense pas.
Non, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Par contre, là où tu as raison, c'est que le match de championnat entre Becky Lynch et Alexa Bliss a donc été officiellement reporté au 8 novembre. SmackDown aura lieu à Glasgow. Donc, gars, à tous nos auditeurs européens, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez voir le match que vous n'avez pas eu à nos merci. Quelque chose à déclarer concernant la division féminine ?
Écoute, non. C'est-à-dire que j'ai rien à reprocher à cet enchaînement de segments, si ce n'est que ça part d'une erreur initiale à No Mercy dont on a parlé. Donc, voilà. Une fois qu'on a avalé cette erreur, il y a pas grand-chose à dire parce que c'est plutôt bien booké. Naomi ne pouvait pas perdre vu qu'elle avait battu Alexa Bliss, ça n'avait aucun sens. Elle pouvait pas perdre contre Carmella. Donc du coup, c'est normal qu'elle la batte sur roll-up. Et puis en plus on joue sur la feud entre Carmella et Nikki Bella tout en continuant aussi, on se rappelle que les semaines précédentes on avait montré que Nikki et Naomi étaient plutôt potes, donc du coup ça s'embrique plutôt bien. Voilà, c'est juste que tout ça est issu d'un truc qui m'a énervé, donc je suis pas complètement fan, j'ai pas pris beaucoup de plaisir devant ce segment de SmackDown, mais bon, c'est cohérent et ça avance.
Ok, bon, j'espère que tu seras un peu moins énervé sur la séquence suivante, hein, puisque là, on enchaîne sur la division tag team. Hein. Donc, ce soir, c'est Jimmy Uso qui affronte Chad Gable. Après leur imprévisible défaite, hein, si je puis dire, les jumeaux diaboliques retournent à leur affaire en cours, hein, puisqu'ils sont en rivalité avec American Alpha. Et cette fois-ci, c'est Chad Gable, hein, qui a l'opportunité de se venger de l'épisode de Backlash où il s'était vu voler la finale suite à une attaque des frères Uso. Donc Chad Gable, hein, qui a vraiment envie de se venger, il entreprend de viser le bras de Jimmy. Hein, il dit « Tu m'as pété le genou, je te pète le bras. » Jimmy survit malgré tout à l'assaut en plaçant des kicks, hop, Samoan drop. Tentative contre 2-2, mais Gable reprend le contrôle en plaçant une incroyable clothesline en sautant depuis, alors je ne sais pas si c'est la deuxième ou troisième corde, je ne me souviens plus, une impressionnante clothesline depuis la deuxième ou la troisième corde. Donc les deux se retrouvent alors à ce moment-là au coin opposé du ring, et alors à ce moment-là on se dit « Ouais, Gable, ouais, il va en finir, il va avoir enfin sa revanche. » Et ben non, Jimmy, ce petit saligo, le coince dans un roll-up, et bon, pourquoi pas, mais là, il est aidé par son frangin qui était resté aux abords du ring et qui maintient la prise. Alors, c'est vraiment super bien foutu, j'ai trouvé. Qui maintient la prise avec son pied. C'est-à-dire, il lève la jambe et hop, il pousse le cul de son frangin. Du coup,
pour donner du poids, quoi.
Pour donner du poids, évidemment, à son jumeau qui, du coup, chez Gable, est impossible de sortir de ce roll-up. Et donc, victoire de Jimmy Uso sur Chad Gable dans un match de moins de 3 minutes. La rivalité entre les deux équipes n'est pas terminé.
Non. C'est très bien. Et c'est très bien comme ça. Non, c'est top. Enfin, franchement, moi, je suis bluffé de voir que chaque semaine, ils n'ont pas beaucoup de temps d'antenne. Ils ont 4-5 minutes à chaque fois.
Ah oui,
hein. Et ils arrivent à tirer le maximum de ces 4-5 minutes en nous proposant toujours des matchs super fun, très compacts, avec toujours des petites variantes et des finishes qui continuent à prolonger la feute de manière, de manière à chaque fois différente et divertissante et tout. Donc, j'ai rien à dire, c'est juste super, super sympa à suivre chaque semaine. Voilà, cette petite, cette petite séquence entre les deux équipes qui, voilà, qui continue, qui se prolonge, ça monte, et puis bah, on verra bien ce que l'avenir leur
Moi,
réserve.
j'ai une petite question pour toi, du coup, Jessica, qu'est-ce qui va se passer là? Qui pourrait être first contender, du coup?
Ah,
Qui pour aller chercher Isleter et Rhino dans leur mobilhome?
bah dans qui pour aller chercher
Pour les
Isleta
déloger?
Rhino, je sais pas. À mon avis, maintenant qu'ils ont écarté les Usos et que les Usos continuent avec les American Alpha, c'est vrai que finalement, on peut peut-être se dire qu'ils sont partis pour un cycle un peu plus long parce que le truc, c'est que les autres équipes maintenant de la division sont pas forcément, bah, enfin, c'est même sûr, sont pas au niveau pour prendre le titre. Donc, on peut imaginer une suite, une succession de défenses un peu moins bling bling, voilà, peut-être ils vont écarter les Highbrow, peut-être qu'ils vont écarter The Ascension, peut-être qu'ils vont écarter des petites équipes comme ça pour peut-être bah, finalement perdre le titre un peu plus tard que prévu. Nous, on avait plutôt pronostiqué une perte de titre assez rapide pour passer aux choses sérieuses entre les Usos et les Alpha. Bah, finalement, peut-être qu'on est rentré dans un cycle où les Usos et les Alpha vont plutôt avoir une feu de hors titre. Et Rhino et Slater vont continuer leur petit bonhomme de chemin avec des défenses un petit peu moins glamour. Mais bon, bah écoute,
Ouais,
pourquoi pas.
je trouve, voilà, effectivement, comme tu dis, on a été surpris, mais je trouve que c'est une excellente idée, parce que ça permet de maintenir, voilà, cette grosse rivalité entre l'American Alpha et les Usos en dehors du titre, et
C'est peut-être,
à côté
ouais,
de
c'est ça.
ça, de pouvoir booker, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, il faut rebooker le lendemain et le surlendemain, c'est-à-dire que, voilà, il faut faire remonter les autres tag team,
C'est ça peut
et
garder une émulation un
voilà.
peu.
Autour de qui du coup sera autour du titre hein, et laisser les deux grosses équipes quoi les vrais bonhommes on va dire se mettre
C'est
sur
ça.
se taper sur les genoux et se casser les genoux les rotules et les avant-bras
Pourquoi pas?
du coup on enchaîne avec un gros morceau puisqu'il s'agit d'une promo du champion du monde AJ Styles. Après sa formidable victoire dans un match d'anthologie, le Triple Threat match qu'il avait opposé à John Cena et Dean Ambrose. AJ Styles arrive évidemment en vainqueur. Il annonce, il a battu Cena et Ambrose dans la même soirée. Il l'avait pronostiqué. Lui, voilà, on voit un mec qui réussit ses pronos, c'est AJ Styles.
Ah
Lui,
oui,
il annonce,
il a tout bon.
voilà, c'est phénoménal. Il avait tout bon. Voilà, il est premier au classement, 100 sur 100% de réussite. Alors il s'en prend à la foule, il les provoque, les invite à chanter pour leur héros, John Cena. Mais ah bah non, John Cena, il est pas là ce soir, trop occupé à participer à un énième talk show. Ouais, aïe, pique. Dans ce cas-là, les gars, bah chantez pour Dean Ambrose, hein. Ah bah non, en fait non, alors, vous avez raison, c'est un lunatique loser, ça, il n'en vaut pas la peine. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah je vous propose de parler de moi, de parler d'AJ Styles tout simplement. Et là où c'est intéressant, c'est comme on dit la semaine dernière, c'est que c'est un champion qui aime la compétition. Voilà. C'est pas un fuyard,
C'est
hein.
ça.
Il a pas les. Qu'on lui annonce qu'il a un match pour défendre son titre, il voit ça comme une opportunité de briller, d'enterrer encore un
Exactement.
peu plus les gentils. Donc ce soir, bah, il va rendre un peu la pareille. À son tour, il va donner une opportunité à quelqu'un de l'affronter. Donc, ce qui est un, voilà, un, comment dire, une opportunité importante. Hein. C'est pas rien. Et au moment où il annonce ça, évidemment, la musique de Dean Ambrose retentit. Donc arrivée de Dean Ambrose, qui n'est évidemment pas celui à qui AJ Styles pensait offrir
Non,
un
je pense
match.
pas, non.
Donc Ambrose s'invite à la soirée. Il reproche encore à AJ Styles de choisir la voie facile pour remporter ses matchs. Et rappelle qu'il l'a fait taper à nos merci, ce dont tu parlais tout à l'heure, Giscal. Mais c'était pas le seul à faire taper AJ Styles. Eh ouais. Alors bon, il va pas laisser. Par contre, il va pas laisser quelqu'un d'autre du roster lui passer devant. Hein, et pour lui, il est toujours le first
Toujours dans la
contender.
course.
Toujours dans la course, mais AJ Styles il fait hop hop hop, attends, je t'arrête tout de suite, mon bon vieux Ambrose, je te corrige immédiatement, mon opposant ce soir, ce n'est la personne qui aura l'honneur hein, de m'affronter, n'est pas dans le roster. Eh ouais, il s'agit de l'homme sans menton. Ça c'est moi, James Ellsworth. Eh oui, évidemment. Eh oui, James qui voilà, vous connaissez hein, c'est ce petit gringalet.
Qui s'était fait tuer par Braun
Qui s'était fait
Strowman.
tuer par. Ah oui, c'est vrai qu'il était allé à Raw au
Il
début.
c'était le premier, c'était le premier mec qui s'était fait éclater par Braun Strowman, je crois.
Voilà, mais qui avait
Puis après,
sorti
il était.
sa catchphrase là,
Ah oui.
qui avait très
C'est à
bien la
partir
peau.
du. C'est As long as you have two hands, you have a fighting chance. Donc c'est à partir du moment où tu as deux mains, tu as une chance de gagner,
On
quoi.
se croirait dans un Rocky là, hein, franchement.
C'est un peu ça.
Et je pense pense que voilà, ça lui a valu l'attention des figures d'autorité, en tout cas des bookers, puisque voilà, on le revoit de temps en temps. James Ellsworth, il avait d'ailleurs failli faire équipe avec AJ Styles.
Oui, tout à fait.
C'est ce que voilà, AJ Styles, tu vois, bah voilà, moi je trouvais que voilà, il avait. Je lui donne cette opportunité-là. Il a pas pu catcher avec moi. Il va catcher contre moi. Donc AJ Styles, il dit bon, écoute, donc évidemment. James Ellsworth voilà, arrive et AJ Styles donc, invite Dean Ambrose hein, à quitter les abords du ring. James Ellsworth, c'est qui se fait pas, voilà, il se fait un peu tout petit, il sait pas trop où se mettre.
C'est trop drôle.
Ouais. Il faut vraiment voir les mimiques. Ce mec a vraiment.
Mais il sait pas où se mettre, du coup, il y a Styles qui le prend par l'épaule, tu vois, il le serre contre lui, et puis il le tient, tu vois.
C'est son petit jouet. Et c'est trop drôle, alors lui qui a déjà pas de menton, il arrive à rentrer son menton encore plus en arrière tellement il sait pas où se mettre, c'est assez drôle. Donc voilà, AJ Styles demande à Eddie Ambrose de bien vouloir quitter les lieux, hein. Il n'a rien à faire là, mais Daniel Bryan, le booker qui book,
le booker fou.
Le booker fou intervient et dit hop hop hop, il rappelle que c'est lui qui book les matchs. Je fais mais Daniel, tu as.
Je te demande où est-ce qu'il était au début du match.
Tu faisais quoi au début du show. Et qu'il est en plus un grand fan de James Ellsworth. Voilà, évidemment, hein, ça.
Alors, forcément.
Oui, évidemment. Donc, donc, Dean, je suis désolé, hein, annonce Daniel Bryan, tu n'auras pas de match contre Chestal ce soir. Par contre, tu seras. Roulement de tambour, l'arbitre officiel, special guest referee. Donc Dean Ambrose exulte pendant que AJ Styles n'est pas content, hein, ça c'est évident. Et alors là, Dean Ambrose s'empresse de dessaper complètement l'arbitre officiel qui était déjà là pour lui piquer son maillot de vendeur.
Soit il y avait trop de choses dans ce segment. Ouais. C'était trop drôle.
L'arbitre se retrouve à moitié à Walpé, enfin il est en Marcel tap out là ou je ne sais quoi. Donc ouais. Il part. Tous les seconds rôles, les figurants ont vraiment super bien joué leur rôle dans ce segment, c'était très drôle. Le match. AJ Styles versus James Ellsworth. On croirait un main event de No Mercy, hein, tellement ça envoie du lourd. Donc, Dean Ambrose.
Je redirais WrestleMania.
Donc, Dean Ambrose, l'arbitre, hein, je vous le rappelle, fait évidemment outrancièrement du zèle lors de cet affrontement. Il vérifie d'abord que AJ Styles n'a pas d'arme cachée, toi, en le checkant plus que de raison. Puis à chaque fois, alors il va passer son temps à désamorcer systématiquement les prises interdites ou dans les cordes. Il va compter à chaque fois très vite quand AJ Styles est dehors ou que justement il met Ellsworth dans les cordes. Donc il fait tout pour emmerder AJ Styles évidemment. Et à chaque fois, par contre, que James Ellsworth parvient à toucher AJ Styles, alors il se prend une volée en retour à chaque fois. AJ Styles, il met une petite baffe et il part en courant. AJ Styles arrive, il le rattrape et juste à chaque fois il lui met la grosse correction. James parvient à un moment donné à faire un roll-up pour le compte de deux. On est passé à deux doigts de la catastrophe. Donc AJ Styles parvient également à le placer dans sa fameuse prise de soumission. Et au moment où James Ellsworth s'apprête à taper, alors là, je ne sais pas si j'ai mélangé des souvenirs ou quoi, mais il me semble qu'il y a eu deux séquences. Une où Dean Ambrose l'a empêché de taper.
Oui.
Ok. Et enfin, une où il a répondu au téléphone.
Oui, parce que c'est vrai qu'une fois, à No Mercy, il avait empêché Cena de taper, alors que bon, Cena n'aurait jamais tapé. Mais, ouais.
Ah, c'est ça, d'accord. C'est là où je mélange. D'accord. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça. En tout cas, là, il répond au téléphone. Il avait gardé son téléphone. Il y avait un paquet de conneries dans son jean qu'il a retiré avant, mais il avait gardé son téléphone. Donc, il répond au téléphone. Donc, forcément, il ne voit pas Ellsworth taper. Puis après, il va récupérer le 06 auprès d'une spectatrice qui passait pulpeuse, qui passait innocemment par là avec son poster à faire dédicacer et tout. Voilà, il boit dans les gobelets des spectateurs et tout. Clairement, il fait tout pour emmerder AJ Styles. Et là, donc, AJ Styles parvient à placer son Styles Clash, donc sa prise de finition, au passage, je pense qu'il a tué James Ellsworth.
Oui, hein, il rentre un peu trop son menton qu'il n'a pas sur ce coup-là.
C'est normalement hein, sur cette prise là il faut relever la tête vers l'arrière,
et justement hein. Il faut relever la tête, oui.
Voilà, là, et là le mec fait. Il fait oh non il s'est fait tel un crabe ou je ne sais quoi, enfin je ne sais pas, un escargot, il essaie de rentrer dans sa coquille, donc c'est pas trop si on le reverra tout de suite. Et donc la Dean Ambrose n'a pas d'autre choix que de commencer le décompte, 1, 2 ah ben non, j'ai pas envie, donc il fait pas, il tape pas à 3, au contraire il place son Dirty Deeds sur AJ Styles, il le fait deux fois, ça je crois. Ouais. Toujours est-il qu'à
il
la fin.
Il part boire un coup, puis il en remet en fait.
Voilà, c'est ça. Il, Il place Ellsworth une première fois, le tombé ne fonctionne pas, il recommence, Dirty Deeds. Il place Ellsworth sur le corps inerte de AJ Styles. 1, 2, 3, c'est même plutôt 1, 2, 3. Et victoire de James Ellsworth sur AJ Styles. Backstage pour conclure en prélude cette séquence. AJ Styles va évidemment tout de suite se plaindre auprès de Shane et Daniel Bryan. Il se fait un peu envoyer bouler, on va dire. Hein.
Oui.
Ça, c'est voilà, c'est... Et pire encore, Bryan annonce, alors qu'AJ Styles est parti, qu'il a une idée pour la semaine prochaine, mais on n'en saura pas plus. Daniel Bryan, donc ce booker, il.
Ouais, enfin le pire c'est Shane hein, dans l'histoire.
Non ouais, Shane là totalement, ouais, carrément.
Quel connard là. Ouais. Non mais.
Oui t'as raison parce que enfin qu'est-ce qu'il fait, enfin je sais pas, il est.
Franchement c'est vraiment un enfoiré. Enfin AJ Styles qui vient se plaindre, bah, c'est légitime. Enfin genre il a passé un quart d'heure à se faire pourrir par Dean Ambrose de manière complètement injustifiée. Il lui a ruiné son match. Il a.
Ouais donc il
l'a
veut
fait
faire
perdre.
Et Shane désofficialiser le résultat quoi.
Oui, et Shane qui est là, non, t'as perdu, arrête de te plaindre et tu parles pas sur ce ton, tu dégages et tout. Genre, c'était vraiment incroyable, c'était vraiment tellement un connard sur ce coup-là, Shane.
Shane, tu nous avais tellement pas manqué.
Non, pas du tout, non. c'était vraiment, voilà, c'était juste pas normal de se comporter comme ça pour Shane.
Non, pour Shane, si, parce que franchement, c'est un connard fini depuis le début. Hein, enfin,
oui.
Je veux dire, déjà, un, il est très mauvais, il est mauvais, voilà.
Oui, moi j'aime pas trop son jeu d'acteur.
Voilà, franchement, il sait pas jouer. À chaque fois, il coupe tout le monde, il est toujours un temps décalé, et là, il se positionne mal. Enfin, il a pas
c'est
trouvé...
un truc de McMahon, ça, en fait.
Ouais, c'est ça, il a pas trouvé les bons mots. Il aurait pu faire la même chose, mais c'est toujours pareil, c'est une histoire de comment tu l'annonces,
ah, ouais.
Toi. Tu peux envoyer bouler AJ Styles, mais tu peux dire, bah écoute, oui. Le résultat est là, tu peux rien y faire. Effectivement, t'as raison, ça s'est pas passé comme tu voulais, mais voilà. Enfin bon, bref, on s'en fout.
Ouais.
Quelque chose à dire sur le match, sur la longue séquence parce que c'est un match qui a duré plus de 10 minutes. Hein. Il y a que deux matchs qui ont duré plus de 10
minutes.
Après,
c'est plus un, on va dire une sorte de promo comédie allongée transformée en match que vraiment un vrai match de catch. Mais c'était, moi j'ai adoré. Ça, j'imagine que ça plaira pas à tout le monde. Il y en a peut-être qui ont trouvé ça trop long.
Un peu trop long, effectivement.
Ouais, je me mettais à la place du public. En fait, on était vraiment en mode house show. C'est le sorte de caricature extrême des matchs de house show qui sont beaucoup plus théâtrales, beaucoup plus clownesques, un peu, on va dire, que des matchs classiques. Donc là, on était à fond là-dedans. Moi, je me suis marré du début à la fin. Quand James Ellsworth s'est arrivé, là, je me suis dit, AJ Styles qui le prend par l'épaule comme si c'était son pote, qui le serre contre lui, puis qui dit à Dean Ambrose de se casser, puis Dean Ambrose qui dessape l'arbitre. Il met le t-shirt d'arbitre, puis après, tu sais, il vide ses poches, il prend son portable, ses clopes, il sort une flasque même de genre une flasque d'alcool de sa poche arrière. Il sort plein de trucs de ses poches, il les file à AJ Styles parce que du coup il faut qu'il se prépare pour arbitrer, donc du coup il vide toutes ses poches, il l'avait pas prévu, donc il met tout dans les mains d'AJ Styles qui est trop vénère, qui balance tout par-dessus la troisième corne. Puis après pendant tout le match, j'ai bidonné du début à la fin, donc je trouvais ça très drôle. J'ai trouvé que le curseur était juste comme il fallait pour pas que ce soit trop non plus cartoon, parce que au final, voilà, c'est bon, certes AJ Styles perd, mais il perd quand même en ayant pris deux Dirty Deeds, et puis bah, voilà, oui. ça prolonge un peu la rivalité. Donc je trouve que voilà, il y avait rien de bien méchant, c'était très très amusant, et puis manifestement on se dirige vers une feu de plutôt Dean Ambrose et AJ Styles, puisque John Cena était aux abonnés absents, il s'est pris un petit taquet que j'ai pas apprécié. Bon, c'est vrai que du coup, voilà, on sait pas, mais bon, on se dirige plutôt là-dessus. J'ai trouvé que c'était un bon moyen de relancer la machine entre ces deux-là.
Ouais, effectivement, toi, moi qui aurais pensé, alors si tu mets l'agenda de John Cena, voilà, que toi seul connais, et encore, je suis pas sûr qu'il te dit tout.
Non, il me dit pas tout, manifestement, je savais pas.
Voilà, en tout cas, je pensais qu'AJ Styles, suite au Triple Threat, il s'était débarrassé des deux, et que les deux allaient peut-être entamer une rivalité
tout de suite.
Ambrose et Cena, mais visiblement pas tout de suite. Il faut encore en finir une bonne fois pour toutes entre AJ Styles et Ambrose. Enfin, en tout cas, je dis une bonne fois pour toutes, on ne sait rien. En tout cas,
oui, on va dire que le jeu pour Dean Ambrose, ça va être d'énerver le plus possible AJ Styles pour qu'il refasse un match, j'ai l'impression.
Oui, on se dirige effectivement vers ça. On arrive à notre séquence de main event. Mm-hmm. Puisque comme pour No Mercy, c'est Randy Orton et Bray Wyatt qui ont les honneurs de clore le show. Donc, comme vous le savez, on vous l'a annoncé en début de show, d'épisode. Luke Harper est de retour.
C'est ça.
Il est réapparu à nos merci, permettant la victoire de son ancien maître. Je dis ancien, pourquoi? Parce que
Oui.
bah, Harper, première chose, bah, il ouvre la bouche. Je ne sais pas si
Déjà.
c'est nouveau.
Si, 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 c'était très rare en tout
Ou c'est
cas.
d'être très rare. Donc voilà, Luke Harper parle. Donc bon, pour déblatérer un peu le même genre de conneries que son ancien maître a pensé, hein, que son gourou, il parle le monde l'avait mis en sommeil, avec quelque chose d'une sorte comme ça.
Il a été à bonne école.
Ouais.
Hein.
Bon, lui s'était blessé, quoi. Hein. Et
Oui.
bref, voyage t'enchaîne en parlant de créatures sombres et de trous noirs. Voilà. Ok.
Voilà.
Donc ce soir, donc on aura un match opposant Bray Wyatt et Luke Harper à Randy Orton et Kane, parce que Wyatt a provoqué Orton, lui a dit, bah écoute, moi j'ai mon monstre, Luke Harper, bah trouve-toi le tien. Et du coup, Orton, bah, il a trouvé le premier monstre qui passait par là, c'est-à-dire Kane. Donc tag team match entre les quatre bonhommes. Donc Ken commence, il affronte tour à tour Luke Harper, Bray Wyatt, il place son big boot, mais manque son choc slam. Orton fait le tag sur une grosse pop, hein, Randy Orton est vraiment au taquet. Il place son slide slam pour le compte de deux. Luke Harper reprend le contrôle des affaires. Ah, je me suis un peu mélangé, mais on s'en fout. Pendant que Bray Wyatt s'occupe de Kane, mais je crois dans le coin, enfin après Kane aurait revenu, je crois, d'ici du monstre, du démon, hein, de Big Red Monster, qui permet à Orton de revenir dans le ring. La vipère nettoie le ring à coups de clothesline, de gros coups de poing dans la tronche, tous ces slams là avec beaucoup d'impact. Baston général un peu aux abords du ring, hein, on finit avec des tronches écrasées dans les escaliers de fer. Randy Orton qui tente à un moment donné de placer son RKO, hein, sur Bray Wyatt, mais alors là, échange de contre dans tous les sens. Orton, il reste plus qu'une chose à Orton à ce moment-là, c'est d'aller chercher le tag sur Kane, hein, quand soudain, la lumière s'éteint. Et la lumière se rallume. Et Kane a disparu. À sa place, Luke Harper. Luke Harper qui rit au visage de Randy Orton.
Lui propose le tag.
Qui lui propose le tag, effectivement. Et Bray Wyatt qui donc bah, prend Randy Orton par surprise et qui place, mais alors très mollement et de
Ouh là
façon.
là, il était horrible, son sister a piqué.
Oh la vache, putain, je me suis dit non, non, non.
Il
Dans
l'a
ces...
raté, il l'a
Et
raté.
voilà, il place voilà, son sister Abigail pour la victoire. Mais dans ces cas-là, je sais pas, tu relèves le mec, tu le refais une deuxième fois, c'est
Tu peux
pas.
lui en remettre une deuxième, c'est vrai que ça aurait pu le
Voilà,
faire.
c'est déjà arrivé, hein, des
Ouais,
botches
c'est
comme
vrai,
ça
c'est
de
vrai.
finish. Et voilà, les mecs, ils ont la présence d'esprit d'en mettre un deuxième, toi. Sans forcément dire celui-ci est loupé, mais tu fais aller, je t'en place deux, comme histoire de.
Parce qu'en fait, au lieu d'écraser la tête de Orton sur le tapis, comme c'est le principe de la prise, il lui écrase un peu sur le bide, en fait, sur son propre ventre.
C'est
Donc du coup, c'est tout mou.
allez, viens, viens, Randy, viens te coucher. C'est un peu ça, toi.
C'est un peu ça.
Bref, donc Bray Wyatt et Luke Harper remportent la mise. Ils vainquent Kane et Randy Orton dans un match de 10 minutes. Et donc voilà, on est reparti pour la rivalité continue avec ce retour de Luke Harper. Est-ce qu'on est content du retour de Luke Harper?
Ouais, on est content du retour de Luke
On
Harper,
est
mais
content,
on est content. Si, 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 je peux pas dire que je suis pas content, je suis content.
Ah.
Il est moi je l'aime bien ce mec. J'ai toujours trouvé vraiment très intéressant dans le ring. Et puis en plus là je trouve qu'il a une arrivée entre No Mercy et puis aujourd'hui, enfin aujourd'hui je parle, enfin de SmackDown, il semble avoir un positionnement un peu plus haut par rapport à ce qu'il était avant. Je me dis ils sont un peu montrés comme des égos quasiment dans le ring et dans leur façon de tenir les promos là. Donc pourquoi pas
Ça, c'est la
si
petite
ça peut être
nouveauté, la
un
petite update, on
ouais
va dire.
si ça peut être un truc comme ça me va bien. Et puis bon bah après bon bah la feud se prolonge, on le savait, hein, y a pas trop de surprises, c'était loin d'être fini, donc bon bah ça par contre ça plaira peut-être moins, mais bon ça avance. C'était pas mon segment préféré du show parce que je trouvais que ça
Non.
tournait un petit peu en rond, parce qu'au final c'était bien gentil là, cette histoire de encore une fois de pouvoir magique là, de faire disparaître Kane et Harper du coup qui apparaît dans le coin et il donne une victoire à Wyatt. Bon ça c'est bien, il donne une victoire à Wyatt, mais au final ça avance pas trop. Ouais, il y a pas voilà la feud continue, il martyrise Orton, mais il n'y a pas eu vraiment de vrai rebondissement, donc j'ai pas
Ouais.
été emballé par ce
Non,
segment.
moi voilà ce qui m'intéresse le plus, moi c'est vraiment le positionnement de Luke Harper. Est-ce que voilà le rapport de force va un peu changer vis-à-vis de Bray
Ouais.
Wyatt?
Ouais, c'est plus intéressant. Ouais.
Voilà, c'est ça. S'il peut y avoir une espèce de, voilà, un vrai duo et pas juste un leader et son acolyte, voilà, on dit que Luke Harper est revenu reprendre le spot de Eric Rowan blessé. Voilà, s'il peut avoir un spot un peu plus intéressant qu'Eric Rowan et faire autre chose que les mecs dans les pièges là de attendre Randy Orton derrière des portes, ça pourrait être quand même plus
C'est ça.
intéressant.
Puis moi, j'aimerais bien qu'à terme, du coup, une fois que cette histoire est terminée, ils partent en solo, renouer sa rivalité avec Dolph Ziggler pour le titre intercontinental qui était vachement sympa à l'époque avant qu'il se blesse. Donc,
Je me souviens
ils avaient
pas
fait
du
des
tout
très
de
beaux
ça.
matchs.
Qu'est-ce que c'est que
Ah
cette
bah,
histoire?
ils avaient fait un ladder match vachement bien, les deux.
Ah bon?
Ah bah oui, bah.
Ah, j'espère qu'il n'y
Alors,
aura pas de questions là-dessus au
il
CDC quiz.
faut. Il va falloir que je vous briefe, les gars.
Après, le mec a été tellement en rivalité avec tout le monde sans grosse victoire que j'ai du mal à me souvenir de tout, mais ok, d'accord. Bah, et oui, effectivement, oui, ce
Oui.
serait. Moi, j'aimerais le voir monter encore un peu plus haut, mais oui, le titre
Plus haut,
intercontinental
plus
ayant
haut,
repris
on
du
verra, mais
prestige.
ouais.
Ah. Mais
C'est déjà
pourquoi
bien.
pas? Ouais, pourquoi pas. Ok, et eh ben, on arrive à la fin, en tout cas de la fin de cet épisode de SmackDown. Alors, du coup, le mot de la fin, ton top, ton flop et ta note.
Allez, rapidos. Mon top, bah mon top. Écoute, à la base je voulais mettre James Ellsworth, mais en fait, je vais mettre un truc qui m'a beaucoup plu pendant l'émission, c'est Alexa Bliss dans son segment backstage avec Bryan, qui lui, à l'inverse, c'était un petit connard. Mais j'ai trouvé que la tête d'Alexa Bliss pendant que Bryan lui annonce qu'il va avoir un match, je trouvais qu'elle avait une moue, un peu de dégoût. Je trouve qu'elle tient parfaitement son petit personnage de vraiment, mais de gamine qui pense que tout lui est dû et qu'elle est au-dessus de tout. Elle tient vraiment la tête de la nana que t'as envie de claquer là. Non mais franchement, je trouve qu'elle le fait très bien et j'ai bien aimé sa réaction face à Brian qui lui annonçait encore une fois là un booking un peu surprenant.
Bah,
Donc, ouais,
les deux sont un peu en rivalité, enfin rivalité. Hein,
bah oui, à
regarde les
Talking
Talking
Smack,
Smack, ils sont
il
un peu en
se
train de
taille un
se.
peu. Il se taille un peu, ouais, c'est vrai.
Je pense
Donc
qu'ils
voilà,
s'aiment
moi,
bien.
c'est mon petit top perdu dans le show. J'ai trouvé que c'était un moment sympa. Et mon flop, écoute, au début, je voulais mettre Kurt Hawkins pour son no-show. Mais en fait, je me rends compte que je m'en fous de Kurt Hawkins, donc
Ouais,
il
t'as pas
mérite
de
même pas un flop.
déception du coup par rapport à ça,
Il
toi.
mérite même pas un flop. Je ferai juste un crochet en disant que c'est vrai qu'à No Mercy, il était arrivé en pré-show pour dire qu'il serait à SmackDown pour un match. Et finalement, on ne l'a pas vu. Mais bon. Donc, en fait, on s'en fout de Kurt Hawkins. Donc, finalement, mon flop, ça va être le comportement de Shane et de Daniel Bryan sur cette émission. J'ai
Ah
trouvé
ouais.
incohérent. Enfin, c'est vraiment casse-gueule, en fait, les figures d'autorité face, parce que ils se retrouvent parfois à devoir jouer les connards face à des heels, mais parfois les situations s'y prêtent pas du tout. Et là, on a eu plein de moments, je sais pas, ça collait pas.
Ouais, bah écoute, ouais, effectivement. Et ta
Et
note?
puis bah ma note, je vais mettre 4 sur 5, parce que j'ai beaucoup aimé,
Ah
au-delà de
oui.
ça, j'ai beaucoup aimé ce SmackDown. Oui, je trouvais que c'était on a renoué avec les excellents SmackDown où voilà, tous les segments quasiment on fait tout avancer, ça bouge bien, c'était pas un épisode de grand catch, mais c'était un épisode voilà, où toutes les histoires avancent, on repart de nos merci avec pas mal de choses neuves, ou en tout cas on capitalise bien, donc j'ai bien aimé 4 sur 5.
Ok, super. Alors moi, mon top, du coup, c'est Luke Harper qui parle et qui donne l'impression de s'émanciper un peu. Voilà, il y a une espèce de frémissement autour de Luke Harper.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà, donc je le mets en top histoire de lui envoyer des bonnes ondes pour que ça donne quelque
En voyant
chose.
lui des bonnes sondes.
Voilà. Et mon flop, à la base, c'était même que toi, c'était Shane et Brian qui sont juste des connards finis. Enfin, c'est l'incohérence et puis...
Ouais, c'est ça,
Ouais, c'est ça, c'est dommage, surtout pour Daniel Bryan parce qu'on le voit beaucoup à l'écran et c'est du coup ça tu tiltes tout de suite quoi. Il switch,
Ah
il fait un
oui.
peu lunaire. Enfin, le mec, je sais pas, il a pas pris ses médicaments et enfin, voilà, il a deux personnalités. Et puis, ouais, Shane McMahon, effectivement, qui est juste nul. Du
Oh,
coup,
lui, il est
ben,
à l'ouest. Hein.
un autre flop, bah, c'est le finish là de Bray Wyatt qui a pas réussi à
Bah, il a
placer
botché.
son qui a botché. Voilà, c'est le botch de Bray Wyatt. Je sais pas, moi c'est bidon. Bref,
Ta note.
ma note 3,5. Voilà,
Ouais.
solide comme tu
C'est une
dis.
bonne note, c'est une
C'est
bonne
une bonne
note.
note, c'est solide. Tu dis qu'on a fait avancer. C'est vrai que tout n'a pas très bien avancé, mais on a avancé. Et ça manquait un peu d'un gros main event, je trouve, un vrai match. Voilà, je sais pas. Le main event m'a pas passionné, tu vois.
C'est vrai que ça manquait
ça
peut-être
m'a
un
trop
peu de catch.
rappelé le mauvais souvenir de
J'aurais
No
peut-être dû
Mercy
mettre
de.
3,75, ouais, c'est vrai.
Non, mais c'est
Peut-être
bien,
un peu
4.
fort, 4,
Non, non,
mais
non,
bon.
non. Mais ça m'a rappelé No Mercy, en fait, ce main event Bray Wyatt,
C'est
Randy
un peu,
Orton.
ouais. Puis c'est les mêmes protagonistes, c'est un peu dommage.
Ouais, mais bon. C'était quand même solide. Hein. On vous avait promis en début de podcast, quand on vous a parlé de l'annonce pour le Survivor Series, qu'on lançait un défi à nos amis de Catch Up Raw. C'est-à-dire qu'on va essayer de deviner quels vont être les rosters alignés pour le Survivor Series dans les trois catégories masculine, féminine et tag team. Donc voilà, on a fait un premier draft. L'idée, c'est de faire évoluer ces rosters en fonction des aléas et l'évolution de la storyline autour
Oui,
des Survivor Series hein,
s'il y
jusqu'au
a un gros
22.
rebondissement, on sera obligé de le
Si
prendre
un
en
mec
compte.
blessé, voilà, on prendra ça en compte. On ne connaît pas la carte, donc il y aura sûrement des matchs de championnat à lesquels. Voilà. Toujours est-il que voilà, notre équipe de 5, notre écurie de 5 masculins, quels sont-ils, Giscal?
Alors,
Qui avons-nous
nos
sélectionné?
cinq masculins. Alors, on précise bien que c'est ce qu'on pense qu'il va arriver. Hein.
Il y
C'est
a eu
pas ce qui
plusieurs
devrait.
versions. Il y a eu plusieurs versions.
C'est nos pronostics. C'est pas ce qui devrait. Enfin, c'est pas la meilleure équipe possible. Hein, parce
C'est
que
ça. C'est pas ce qu'on
sinon
veut.
j'aurais un mois et demi pour travailler sur la technologie du clonage pour proposer 5 John Cena. Mais
Bah
ce
déjà,
sont.
tu as Darren Young. Ça t'en fait un.
Oui, c'est vrai, ça m'en fait un. Donc non, nos cinq mecs, bah, on est parti sur justement John Cena, Dolph Ziggler, Le Miz, Kane. Et le Baron Corbin.
Voilà.
Le
Deux
Baron Corbin,
costauds.
voilà. Donc nous excluons Styles Ambrose pour le titre, a priori, et puis les protagonistes Orton, Wyatt, Harper, qui seront probablement encore dans leur micmac.
C'est ça. Et pour l'alignement féminin, bon, Giscal, qui avons-nous choisi?
Ah, c'est là où ça. Là, par contre, c'est plus simple, on va dire, parce que la division, ça s'écrit un peu tout seul, quoi, parce que du coup, on va dire Becky Lynch. Hein. Alors, si on dit Becky Lynch, on dit Alexa Bliss. Et puis, bah, après, derrière, il y a Nikki Bella qui semble incontournable. Mais bon, bah, si on dit Nikki Bella, a priori, on dit Carmella. Et derrière, en dernier spot, il semble qu'il y aurait Naomi, je pense, parce que Naomi est très présente quand même depuis son changement d'intro, là. Donc voilà, on laisse de côté Natalia et Eva Marie qui reviendra peut-être
Donc
un
là, c'est
jour.
vraiment, on part du principe où il n'y aurait pas de match pour le titre.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il n'y en aura pas. Il n'y aura pas la place, à mon avis.
Division tag team.
Et division tag team, bah même postulat. Hein, je pense qu'il n'y aura pas de, il n'y a pas la place pour le match pour le titre. Donc ce sera sûrement bah, Rhino et Slater, les Usos, les American Alpha, les Hype Bros et The Ascension, je pense. On laisse de côté Breezango et les Vaudevillains sur ce coup-là. Mais c'est vrai que le dernier spot des Ascension, bon bah, à voir. Mais en tout cas, on mise sur The Ascension vu ce qu'on a vu.
Et donc
Et
voilà, donc ça c'est
voilà.
notre sélection. Donc bah voilà, Catch Pro, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous nous proposez la semaine prochaine, vous nous proposez vous qualifiez. Et bah, je vous invite également tous les auditeurs à faire la même chose dans les commentaires sur
Ouais,
YouTube.
si
Pourquoi
vous.
pas faire ça?
Pourquoi pas?
Proposez-nous vos prédictions, hein. C'est pas ce que vous aimeriez avoir, parce que comme dirait Giscard, il y aurait 5 John Cena.
Bah oui,
Vraiment vos
forcément.
prédictions, si vous pensez qui sera sélectionné par leurs GM respectifs. Et puis on fera évoluer ça au fur et à mesure des semaines. Et puis à la fin, on fera le bilan comptable et on verra qui a la plus grosse, quoi.
Ouais, voilà, tout simplement, c'est ça, de toute façon, la vie, hein.
Bon, Giscal, sur ce, c'en est fini de cet épisode Catch Up, le supplément SmackDown.
C'est
Encore
ça.
merci à toi
Bon, écoute, merci à toi
pour
aussi,
ta
c'est un plaisir.
présence lumineuse. Merci à toutes
Écoute.
et à tous de nous écouter chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux, mais pas encore assez nombreux. Du coup, pour qu'on soit encore plus nombreux, je vous invite non seulement à nous écouter, mais également à vous abonner, mais aussi à partager autour de vous
Eh oui.
sur vos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et sûrement d'autres à venir.
Peut toujours pas en vivre et prendre notre retraite là, donc ça va pas.
Non, non, non. Mais bon, voilà, c'est de la déconne. On s'éclate bien toutes les semaines à raconter ce qu'on pense de ce que fait la WWE. Donc partagez, abonnez-vous. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Catch Up SmackDown. Salut Giscal, salut à tous!
Salut tout le monde! J'ai souvenir que la semaine dernière, je crois que tu avais fait le même test, on s'était fait niquer, non?